Radio Kapi.
La une, l'entrée en vigueur aujourd'hui 6 mai de l'état de siège proclamé par le président de la République au Nord Kivu et en Ituri. Dans ce journal, le portrait des membres des gouvernements provinciaux, militaires et policiers qui vont diriger ces provinces ainsi que des réactions à ce sujet. Les jeunes doivent se ressaisir et se désolidariser des Maïmaï Bakata Katanga. C'est l'appel du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président de l'UNAFEC. Kyungwa Kumwanza interpelle les tireurs de ficelles qui envoient sans raison les jeunes à la mort, dit-il. Il est notre invité ce matin. Avant d'aller plus loin, sachez que la répartition des groupes parlementaires et des commissions permanentes entre la nouvelle majorité de l'Union sacrée de la Nation et l'opposition FCC était au cœur du débat au cours de la conférence des présidents hier, convoquée par le bureau de l'Assemblée nationale. La réunion s'est tenue dans un climat de sérénité sur les 10 groupes parlementaires et le comité des sages que compte la chambre basse du Parlement. La majorité Union sacrée en a hérité 7 et l'opposition FCC en compte 4. D'autre part, 13 députés provinciaux de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, favorables à l'Union sacrée de la Nation, ont signé lundi 4 mai une motion de censure contre le gouvernement provincial que dirige Zoé Kabila à Kalemi. Les signataires de la motion forment le quart des membres de l'Assemblée provinciale contre les 12 autres députés du FCC, dont 2 interdits de participer aux plénières par une décision de la Cour d'appel de Kalemi. La motion de censure déposée au bureau de l'Assemblée provinciale a été jugée recevable. Madame, Messieurs, bonjour. L'état de siège proclamé par le chef de l'État pour mettre fin à l'insécurité qui sévit dans le Nord Kivu et l'Ituri entre en vigueur aujourd'hui pour une période de 30 jours. Le président de la République, après avoir saisi les 2 chambres du Parlement, pourra le proroger pour des périodes successives de 15 jours. L'annonce de la nomination par ordonnance présidentielle de 2 gouverneurs militaires et 2 vice-gouverneurs policiers qui vont diriger les 2 provinces pendant toute la période que durera l'état de siège a été faite le mardi soir sur les antennes de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Le lieutenant-général Lubuyanka Chama Johnny va donc gouverner la province du Nord Kivu et sera secondé par un vice-gouverneur policier en la personne du commissaire divisionnaire Alunga Boni Benjamin. Mais qui sont ces officiers généraux des FARDC et de la police? Jacques-Yves Molima nous dresse leur portrait.
Accumulant plusieurs années d'expérience dans la gestion de la défense nationale, le lieutenant-général Lubuyanka Chama Johnny, à sa nomination, il commandait la première zone de défense qui prend en compte la partie ouest du pays, incluant la ville-province de Kinshasa. Mais déjà, bien avant cette nouvelle restructuration de l'armée, pendant près de 5 ans, le lieutenant-général Johnny Lubuya a dirigé la 13e région militaire des FARDC, dont l'état-major était situé à Mbandaka. À son arrivée dans cette région militaire en 2014, il a fait preuve de maintenir la discipline militaire au moment où plusieurs militaires FARDC étaient impliqués dans les violations des droits de l'homme, notamment à Dongo et Imessé, dans les territoires de Kungu, province du Sud-Ubangi. Johnny Lubuya connaît mieux la région du Nord Kivu pour y avoir œuvré pendant quelques années lors de la rébellion du RCD Goma. Son adjoint Benjamin Alunga Boni est un homme de terrain. Ancien commissaire général adjoint de la police nationale en charge des opérations sous John Numbi, ce général de la police a été un moment directeur général des écoles de formation de la police. Ancien général de l'armée de libération du Congo, la branche militaire du MLC, Benjamin Alunga Boni a été un officier majeur dans les opérations militaires avant de rejoindre la police en 2003.
Et pour l'Ituri, le lieutenant-général Constant Ndima et le commissaire divisionnaire Ekoukalipopo Romuald ont été nommés respectivement gouverneur militaire et vice-gouverneur policier à la tête de cette province. Leur portrait, c'est toujours avec vous, Jacques-Yves Molima.
Il quitte l'administration des FARDC, où il est jusqu'à cette nomination chef d'état-major général en charge de l'administration et de la logistique pour administrer la province de l'Ituri sous l'état de siège. Lui, c'est le lieutenant-général Constant Ndima. Avant de regagner Kinshasa pour tenir l'administration de l'armée, Constant Ndima venait de boucler quelques années à la tête de la 3e zone de défense, une zone qui couvre les 2 Kivu, le Maniema, l'Ituri et la Tchopo. C'est donc en connaisseur de terrain qu'il revient sur cette terre. En effet, Constant Ndima dirigeait les troupes de l'armée de libération du Congo, la branche militaire du MLC dans la partie est, notamment les Uotuele, l'Ituri et la zone de Beni Butembo. Notons par ailleurs que le lieutenant-général Constant Dima a également été commandant des opérations militaires dans la deuxième zone de défense dont l'état-major était basé à Lubumbashi. Son vice-gouverneur, c'est le commissaire divisionnaire Ekou Kalipopo, ancien commissaire provincial de la ville de Kinshasa en charge de la police judiciaire. Ce général a aussi œuvré dans la coordination du groupe technique de la police pour la sécurisation des élections.
Et justement, à propos de cette nomination, sur le terrain au Nord Kivu, les jeunes, particulièrement ceux des groupes de pression et autres mouvements citoyens, sont appelés à collaborer avec les autorités militaires nommées pour gouverner la province pendant cette période d'état de siège. L'appel vient du Conseil urbain de la jeunesse de Butembo. Frank Mukenzi, son président, s'exprime au micro de Grâce Amzati.
Nous savons très bien que nous sommes secoués par les sécurités depuis très longtemps. Depuis très longtemps, nous sommes entrés aussi de réclamer la paix chez nous. Aussi donc, le gouvernement qui nous a écoutés vient de prendre aussi une mesure que je dirais grave pour que nous puissions avoir la paix. Et ce que nous sommes appelés à faire, c'est collaborer avec ces autorités parce qu'ils viennent travailler pour notre cause. Et la cause que nous sommes en train de chercher tous les jours. Mais aussi, c'est les mêmes autorités qui vont nous permettre aussi à travailler avec eux. La décision est prise, ça n'a pas été pour notre mal, on suppose que c'est pour notre bien. C'est ainsi qu'il n'y a rien qui peut nous opposer à ces autorités. Mais aussi, et aussi, les mêmes autorités doivent nous faciliter les climats de collaboration. Aussi, je rappelle encore aux jeunes, étant déjà dans une situation dont certaines libertés sont restreintes, nous sommes appelés à changer peut-être aussi nos manières de travailler. Par exemple, les manifestations que nous effectuons tous les jours vont être aussi restreintes. La façon de dénoncer tout ce qui ne va pas doit être aussi réorientée. Parce que nous avons quand même besoin de la paix. Et ceux qui viennent, on ne devrait pas les mettre encore à des contraintes qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas normales.
Pour leur part, considérant que les efforts fournis jusqu'ici n'ont pas permis la fin des massacres, les députés du Nord qui vous croient que cet engagement ferme du président de la République va contribuer suffisamment à la paix dans cette partie du pays où l'État était déjà déliquescent. Dans une déclaration à la presse hier à Kinshasa, l'élu de Beni, Paul Mouindo, invite la population du Nord Kivu à soutenir l'état de siège et le gouvernement militaire en dénonçant tous les suspects et tout mouvement suspect dans la province. Paul Mouindo, au micro de Michel Kifindangoy.
Nous avons suivi avec satisfaction les mesures prises par les commandants suprêmes des forces armées congolaises, décrétant un état de siège pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et en particulier les territoires et la ville meurtrie de Beni. Et pour matérialiser la parole en acte, le président de la République vient de nommer un gouvernement provincial militaire. Voilà pourquoi, exhortons toutes les couches de population de faire preuve d'une maturité patriotique, en n'utilisant pas la haine comme outil d'information. Ne cédons pas aux pièges et ruses de l'ennemi qui va chercher à tout prix à nous diviser par des intox sur les réseaux sociaux ou par d'autres mécanismes. Nous croyons que notre armée, qui avait vaincu le M23, les Eunyélé et consorts, est capable d'en finir avec les ADEF et CODECO dans toutes leurs ramifications.
Un autre message de soutien, c'est celui du collectif des anciens présidents du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Ses membres affirment être d'accord avec le président de la République d'avoir décrété l'état de siège dans l'est de la RDC. Dans une déclaration à la presse hier à Kinshasa, ce collectif souhaite que ce projet d'état de siège aboutisse pour rétablir la paix dans cette partie du pays. Paul Matendo nous en dit plus.
Selon Aubin Minaku, membre de ce collectif, cette position a été prise de commun accord en dépit des sensibilités politiques des uns et des autres.
Puisque nous sommes respectueux des règles républicaines et donc de toutes les institutions, nous ne pouvons que souhaiter vivement que l'option levée par le président de la République puisse réussir. Il est bien évident que chacun de nous peut avoir un point de vue personnel, lié notamment à sa sensibilité politique.
Par ailleurs, ce collectif appelle la classe politique à se surpasser afin de construire un consensus sur la situation de l'Est, comme le dit Thomas Louraka, l'un d'eux.
À toute la communauté nationale de considérer la situation de l'Est non plus comme une priorité, mais comme une urgence et de lui accorder une prise en charge nationale. À la classe politique de faire taire les querelles partisanes et de se surpasser pour construire un consensus autour de la question sécuritaire de l'Est.
Parmi les anciens présidents présents à cette cérémonie, on a noté la présence de Mgr Laurent Mosengo, Kengo Wadundu et Alexis Tambwe Mwamba.
Autre réaction, c'est celle de la MONUSCO. Elle salue également l'état de siège décrété par le président Félix-Antoine Tshisekedi dans le Nord Kivu et l'Ituri et s'engage à accompagner de manière constructive les autorités congolaises dans le cadre de cette nouvelle disposition, tout en restant vigilante concernant le respect des droits fondamentaux. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la mission onusienne hier au cours de la conférence des Nations Unies à Kinshasa, Mathias Gilman, dans ses propos recueillis par Honoré Misenga Kalala.
Dans l'application de cet état de siège, nous allons être constructifs et nous allons être également vigilants à ce que les droits fondamentaux soient respectés. Nous avons pris note que hier, le porte-parole de l'armée a pris des engagements en ce sens et évidemment on s'en félicite. Nous continuerons à apporter notre soutien autant que possible à l'armée congolaise parce qu'évidemment il est dans l'intérêt de tous que la situation s'améliore dans ces deux provinces en particulier. Il est clair que c'est une décision souveraine et c'est une disposition constitutionnelle, c'est une décision qui a été prise par le président. Donc évidemment, nous, on se place toujours dans une logique de partenariat et de soutien et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces nouvelles dispositions soient aussi efficaces que possible avec aussi, à notre sens c'est important de le rappeler, en plus d'opérations militaires, il faut toujours accompagner la restauration de l'autorité de l'État.
Sachez par ailleurs que l'UNICEF a dit avoir construit plus de 500 nouvelles salles de classe à travers le pays et compte en construire d'autres dans le cadre de son appui au programme de la gratuité scolaire en RDC. La représentante adjointe de cette agence onusienne en RDC, Madame Katia Marino, l'a fait savoir hier au cours de la même conférence de presse dont elle était l'invitée spéciale. Les infrastructures de l'Université pédagogique nationale UPN seront bientôt réhabilitées, promesse du président de la République hier aux étudiants de l'UPN lors de sa visite sur place. Félix-Antoine Tshisekedi promet aussi la mise en place d'une connexion Wi-Fi pour tous les étudiants. Face aux étudiants, le chef de l'État a interdit la vente des syllabus, tout en promettant de se pencher sur la question des frais académiques et le transport des étudiants. Jean-Didier Ogobani a suivi pour nous la visite du président de la République à l'UPN. Voici son report.
C'est dans cette ambiance que le président de la République est arrivé à l'UPEN. Il est 13h47. Félix Tshisekedi descend de sa voiture. Aussitôt arrivé, il visite les installations de l'université. C'est à 13h52 qu'il se présente devant les étudiants. Il pose son diagnostic après avoir sillonné quelques sites de l'université.
Le premier problème qu'il y a ici, c'est celui des infrastructures. À ces propos, je vous dis ceci. Pas plus tard que cette semaine, vous allez voir les gens des entreprises de construction descendre ici. Ils viendront voir ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à arranger.
La deuxième nouvelle est l'installation d'un Wi-Fi gratuit à l'UPEN. Le but est de faciliter aux étudiants de bien étudier et de bien faire leurs recherches. Désormais, fini la vente des syllabus. Les professeurs ne sont pas là pour vous maltraiter, martèle-t-il. Concernant les frais académiques, le chef de l'État dit ne pas avoir de promesses à faire. Le gouvernement va y travailler. C'est une priorité pour voir comment alléger la charge des parents, dit-il. Une mise en garde sévère a été adressée aux membres du comité de gestion quant à un éventuel détournement des deniers publics.
Sachez qu'après l'Université pédagogique nationale, le chef de l'État a également visité l'Institut des bâtiments et travaux publics, IBTP, où il a fait la même promesse, à savoir la réhabilitation des halls et auditoires des étudiants. Et puis, où sont passés les 225 millions de dollars, voire plus, qui ont été générés entre mars 2009 et décembre 2019 par le GoPass en RDC? C'est en tout cas la question que se pose le groupe d'études du Congo GIEC dans un nouveau rapport publié hier à Kinshasa. Les chercheurs du GIEC ont mené une série d'enquêtes entre avril 2019 et février 2021 sur la gestion de cette redevance instaurée depuis 12 ans. Jean-Pierre Elali Koko a lu pour nous ce rapport, il nous en fait l'économie.
Dans son rapport intitulé « Leïsa Punda Punda Aleïsayo », traduisez « Nourris le cheval pour que le cheval te nourrisse », GIEC fait ses constats. Durant 10 ans, les fonds générés par le GoPass ont été détournés de leurs objectifs initiaux. Plus de 37 millions de dollars de redevances collectées durant les deux premières années ont été alloués à la construction du seul pavillon présidentiel à l'aéroport d'Ndjili, exclusivement réservé au chef de l'État et aux dirigeants. La RVA a aussi versé entre juillet 2015 et décembre 2017, au moins 6,5 millions de dollars générés par GoPass à Congo Airways au titre de participation au capital. Plusieurs autres millions collectés ont servi au paiement du personnel de la régie. Il est difficile de savoir exactement comment l'argent restant a été utilisé à cause du manque de transparence, souligne le rapport. Cette opacité profite aux détenteurs du pouvoir politique qui détiennent jusqu'à aujourd'hui une mainmise sur l'entreprise, des pratiques douteuses qui n'ont pas pu dissuader les bailleurs internationaux d'accorder des dons et prêts importants à la RVA.
Actualité Afrique Monde.
Assa Traoré, figure française de la lutte antiraciste, comparée aujourd'hui devant le tribunal judiciaire de Paris pour diffamation dans une tribune publiée 3 ans après la mort de son frère Adama en 2016. Elle citait les noms des gendarmes qui l'avaient interpellé. « J'accuse les gendarmes d'avoir tué mon frère en l'écrasant avec le poids de leur corps », fin de citation. Très médiatisée, cette affaire devient alors le symbole des bavures policières en France.
L'invité.
Les jeunes doivent se ressaisir et se désolidariser des Mai Mai Bakata Katanga. Cet appel est du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, s'est confiant mercredi à Radio Kapi. Antoine Gabriel Kungwa Kumwanza interpelle les tireurs des ficelles qui envoient sans raison les jeunes à la mort, dit-il. Kungwa Kumwanza s'entretient à ce sujet avec Jean Gandou.
Président Kungu, bonjour.
Bonjour.
La ville de Lubumbashi ne finit pas de connaître les menaces de Bakata Katanga. Jusqu'où ira-t-on avec ce feuilleton?
Mais vous savez, c'est un vilain jeu. Vilain parce que on connaît les milieux où se fomente toute cette cabale. C'est pratiquement dans les milieux des anciens dirigeants de ce pays originaire du Katanga qui s'agitent et qui font tout pour que cela puisse servir de chantage afin qu'ils puissent soit garder les intérêts, soit se faire voir pour pouvoir se hisser au pouvoir comme dans les temps. Il n'y a pas d'autre chose. Nous savons que dans certains villages, chez nous, chez les Baluba du Katanga, il y a notamment aux environs de Malemakulu, Kabongo et même du côté de Parc Upemba, il y a des petits groupuscules comme ça entraînés pour venir intoxiquer. Ici à Lubumbashi.
Pendant que vous pointez les doigts sur d'autres personnes, mais ici on dit qu'il y a les jeunes de l'UNAFEC qui seraient aussi dans ce mouvement subversif.
Ce sont des manœuvres dilatoires. Ils essayent tout simplement de disposer les autorités parce qu'ils savent très très bien que entre les dirigeants de l'UNAFEC que je suis et les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a une entente parfaite. Voilà maintenant comment il faut troubler cette entente, comment essayer de mettre du désordre afin que ces deux-là ne s'entendent pas. Voilà. C'est ça leur manœuvre, ça. Je dénonce, j'ai des preuves. Malheureusement, ils perdent leur temps.
Mais par rapport aux jeunes qui s'incursent dans les mouvements subversifs, qu'est-ce que vous dites?
Bien sûr, c'est malheureux. Je profite de votre micro pour lancer un appel à tous ces jeunes-là qui, aujourd'hui, ont leur brandit leur originalité, c'est-à-dire qu'ils sont du Katanga. Maintenant qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils sont plus katangais que nous qui étions là. Bon, alors, à partir de ce moment-là, ils doivent savoir que ce sont des manœuvres dilatoires pour leurs intérêts, ils veulent faire tuer les enfants d'autrui inutilement. Et je lance un appel à tous nos jeunes dans des villages, surtout dans le nord du Katanga, de se ressaisir. Ce sont des faux prophètes. Il faut suivre les dirigeants actuels pour pouvoir sortir de l'ornière où ils nous ont laissé. Ils ont dilapidé toutes les richesses de notre pays. Vous les voyez en train de fuir avec des millions, mais ils veulent vous utiliser parce que ils vont vous prendre pour des chairs à canon et vous faire tuer inutilement. Il faut quelqu'un qui vient avec le problème Bakata Katanga, chasser-les des villages. Il faut les poursuivre et même les faire arrêter par la police locale.
Pensez-vous que vous serez entendu en lançant un tel message ou aller vers ces jeunes pour les leur parler?
Je me prépare. Vous m'avez vu, Jean, j'ai été à Kalemie. J'ai parlé aux jeunes de Kalemie. Vous connaissez la suite. Lorsque le temps me permettra de le faire bien, je ne manquerai pas de me rendre sur les lieux pour passer les messages d'entente, les messages de solidarité afin que nous puissions aider les chefs d'État. Vous les voyez, il était en France, il était partout pour arriver à trouver une solution, notamment du côté de l'Est. Mais il ne faut pas que ce soit la même situation ici au Katanga. Là, nous allons tout faire pour empêcher que les pêcheurs à nos troubles ne puissent venir déranger la quiétude de la population.
Et les jeunes qui, par moments, se font passer pour ceux de votre parti politique, ou peut-être ceux de votre parti politique qui s'invitent dans ces genres de fêtes. Qu'est-ce que vous en dites?
Eh bien, ceux qui essayent même de partager les points de vue de ces gens-là, leur place n'est pas à l'UNAFEC. L'UNAFEC a sa ligne de conduite. Nous avons choisi d'accompagner les chefs de l'État, non pas par hypocrisie ou par flatterie, nous n'en avons pas l'habitude. Nous en avons la conviction qu'avec lui, le Congo peut être sauvé. Et par conséquent, tout jeune qui adhère à ce mouvement, dès l'instant qu'il se hisse dans les rangs de ces gens-là de Bakatakatanga, son appartenance à l'UNAFEC cesse en ce moment-là. Donc, il n'y a pas de pardon et ils le savent. Les jeunes ont décidé d'être avec moi, soudés, pour aider les chefs de l'État. Le reste, c'est des écervelés qui ne comprennent rien à cela. L'État va s'assumer.
Kingo Kumanza, je vous remercie.
Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président de l'UNAFEC s'entretenait avec Jean Gandou. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.